Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour à tous. Merci de nous suivre comme chaque semaine dans ce podcast On s'aime fort. Un petit rappel, On s'aime fort, le livre est disponible évidemment dans toutes les librairies, dans les grands réseaux et puis bien sûr en vente sur monjardinbio.com. En tout cas, merci infiniment pour tous vos messages, ça nous fait très plaisir. Top générique. On s'aime fort. Le podcast du jardin. Et nous sommes le vendredi 19 janvier. Bonjour à tous, bonjour à toutes. On est ravis de vous retrouver. Non, c'est plaisante, on est le 19 avril. Bon, lui, il est quasiment congelé, c'est ce qu'il m'a dit. C'est Eric. Ouais. Salut l'ami.
Ouais, salut, j'ai trop froid.
Alors, on va quand même repréciser. En Alsace, mais j'ai regardé une carte de France, on caille à peu près partout. Ouais. Nous, on attend du 1 degré. Il y a eu déjà ce matin, hier, des gelées, notamment dans le Doubs, dans le centre de la France. Ouais. Une énorme pensée à tous les professionnels.
Ouais, voilà.
Clairement. Ouais. Parce que eux, c'est pas très drôle là. La nature s'est excitée bientôt et bien
voilà.
Plus tôt.
Hein. C'est ça le problème, c'est le. Cette avance que tout le monde des fois se réjouit, dit tiens il fait beau et compagnie, mais il fait tellement trop tôt que par rapport à la période de végétation que voilà on se prend voilà si même si c'est pas un coup de gel fort tout paraît un peu se figer en ce moment et c'est ça la grosse problématique comme dit une pensée vraiment pour les professionnels qui excusez-moi l'expression en chient vraiment.
Et puis on va juste rappeler en fait la difficulté, on en a déjà parlé je crois l'année dernière, mais la difficulté c'est pas parce que finalement en avril ne découvre pas d'un fil, Eric, on le sait, toi qui as l'habitude
de
jardiner.
Oui mais ça c'est bon, mais avant on était tout nu en février, on était tout nu en mars par moment.
C'est ça.
Et notamment tout nu vers le 1er avril et compagnie où il y avait des températures, où les gens étaient en tongs, au soleil en t-shirt barbecue. Avec 29 degrés et puis 8 jours après il y a 25 degrés de moins
voilà donc concrètement là ce qui pêche c'est le démarrage très précoce et puis ce gel qui finalement n'est pas tardif parce qu'on va rappeler les seins de glace même si on lit tout et son contraire. Alors Eric, tu es la voix de la raison, rappelle-nous juste les seins de glace, c'est jusqu'à la mi-mai Eric, on est d'accord.
C'est ça, voilà, c'est pour ça que dans je dirais au nord de la France les seins de glace ça veut dire quelque chose, voilà. Alors, et ça c'est souvent, mais là je fais beaucoup d'interventions sur adapter le jardin au changement climatique, que faire. Alors je dis souvent que notre problématique c'est le trop, hein. C'est pour ça que je dis souvent que le trop arrive au galop. C'est que le problème c'est qu'il fait trop chaud, trop froid, trop de flotte. On peut regarder là par exemple, tout était dans le bon signe pour les abricots et il y a une région en France où il y a eu tellement de flotte que la fécondation n'a pas eu vraiment, il y a une pollinisation à peu près correcte, fécondation pas top. Et du coup, ben, tous les petits abricots qu'on appelle... ce qu'on appelle le stade petit fruit, tous les abricots jaunissent parce qu'il y a eu un excès d'eau. Alors l'excès d'eau, ce n'est pas simplement, le fait que les pieds sont gorgés d'eau. Non, ce n'est pas ça. C'est que la pollinisation, fécondation n'a pas été efficace ou elle a été, pas complète et les fruits jaunissent. Et on va voir le cas dans les cerisiers. Et si ça continue, on peut avoir le cas dans les pommiers.
Alors, on va quand même pas... On va juste voir le verre à moitié plein, mauvais jeu de mots. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le BRGM qui étudie l'état des nappes, où globalement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même un rechargement des nappes suite aux pluies, bien sûr, d'automne, hein, parce qu'une nappe ne se recharge pas en une heure, on est d'accord, avec une pluie, on va le rappeler. Ouais. Mais il y a quand même visiblement une situation qui... Sauf dans l'extrême sud-ouest, me semble-t-il. Ouais. Donc là, encore une fois, il y a une vraie question autour de la flotte. Mais à côté de ça, on a quand même des nappes qui se rechargent, même si s'il n'y a plus rien à... S'il n'y a plus rien à planter, il y aura pas forcément de quoi arroser. Hein. On est d'accord.
Donc là, on est à, de mémoire, hein, 75% des nappes phréatiques sont OK, quoi. Je dirais même sont au taquet. En sachant que ce qui est important, c'est que même s'il pleut aujourd'hui et demain, On sait très bien que cette eau-là ne va pas recharger les nattes parce qu'elle sera tout de suite prise par la végétation.
Voilà, parce donc, que maintenant on est poussant, contrairement voilà. à l'automne où on est en phase inversée, hein, évidemment, oui, et en hiver. Donc c'est pas du tout la même.
Non, c'est pour ça que l'autre fois on m'a repris, on me dit bah oui, mais en fin de compte, la pluie, bah, sur l'année, on est à peu près la même chose. Alors ça pose pas de problème, changement climatique. Je dis si, le gros souci c'est que les pluies doivent être plutôt à l'automne pour que ça aille, pour que ça puisse passer le sol, entre guillemets, hein, ça puisse. Et au printemps, si c'est des pluies plutôt de printemps, déjà on le voit bien, là on est vraiment dans les cas concrets. C'est ça qui est intéressant avec le changement climatique, c'est qu'on est sur du concret. On peut expliquer aux gens, et l'excès d'eau n'est pas favorable à la pollinisation-fécondation, où je rappelle ces insectes pollinisateurs pour certains et le vent pour d'autres, qui font que la pollinisation puisse se faire. Et c'est surtout le fait que la flotte, si elle vient en avril-mai, elle est surtout pompée par les végétaux et elle ne va pas recharger la nappe phréatique.
Et accessoirement, Eric, ça ne claquerait pas le beignet, pour rester poli, à toutes ces personnes qui n'ont absolument encore rien compris, oui. Alors où on s'écharpe entre spécialistes ou pseudo-spécialistes du réchauffement ou du changement. Nous, on parle plutôt de changement.
Oui, bien sûr.
Parce que c'est une vraie évolution
oui,
à vitesse grand V. Après réchauffement, on sait, 10e mois consécutif, celui qui n'a pas compris. Mais bon, en même temps, rien ne nous empêche de lire des fois des commentaires absolument lunaires. Mais pourtant, il y a de la neige au Markstein. Oui, ok, super. Mais en même temps, il n'y en avait pas et on était en tongs avec 29 degrés il y a une semaine. Donc voilà, là, on est sur l'excès, c'est ce que tu disais. Oui, Eric, pardon, tu voulais...
Oui, non, ce qui est important, c'est que... Là, et je dirais, c'est pas les mesures qu'on va faire aujourd'hui pour ici et là qui vont pouvoir trouver une solution immédiate. Hein, c'est ça le gros souci. Et là, je vois bien que quand les maraîchers, les aménageurs professionnels disent, on a tout à réapprendre et à revoir. C'est pas une histoire de pessimiste. Hein, c'est un constat. Je veux dire, on est.
Mais tout, hein, tout le monde agricole, hein. Enfin, même, ouais, même nous, agricole, simple petit potager, enfin simple petit jardinier, on a des techniques. Je me souviens l'année dernière, on parlait justement de cet effeuillage. Alors, on n'est pas encore en saison tomate. C'est une question d'ailleurs en ce sens-là, mais on n'est pas encore en saison tomate. On sait que quand il y a beaucoup de soleil, bah, ça crame un peu la tomate sur certaines variétés. Est-ce que on avait dit, est-ce qu'on coupe l'entrecœur ou pas? On sait très bien que ça fait des années qu'on nous dit, oula, faut surtout couper, faut surtout tailler. Toi, tu nuances un peu plus le propos. Moi, de ma propre expérience, je dis, bah, c'est peut-être pas idiot de laisser un peu de végétaux parce que ça permet de faire de l'ombre, blague à part, sur les tomates. Alors, c'est sûr que si tu as un mois de juillet qui est flotteux, mais totalement humide et très pluvieux, bah, c'est sûr que là, tu as le milieu à tous les étages. Hein. Mais à côté de ça, c'est quand même des techniques où on voit que tout ça doit évoluer, tout ça doit changer et se remettre effectivement en question. J'ai une question, Eric, sur les températures là. Bon, alors évidemment, est-ce qu'elles sont anormales? Oui, mais c'est encore une fois la précocité chaleur qui fait qu'on est à ce stade-là. Parce qu'il y a 10-15 ans, et ben finalement, caillé au mois d'avril, encore une fois, ne te découvre pas d'un fil, c'était pas si schnapps, comme on dit chez nous. Là, c'est vraiment ce problème-là. Aujourd'hui, alors, encore une fois, grosse pensée à tous les professionnels, le particulier qui a, par exemple, cette tomate chez lui, qui a une serre, évidemment, qui n'est pas chauffée, quand on a à peu près 1 degré, qu'est-ce qu'on fait, Eric, avec les tomates?
On serait à moins 4, ça serait plus simple, comme ça, tout serait crevé.
C'est ça.
Ça serait plus simple. Là, on est une phase complètement intermédiaire, c'est-à-dire que...
C'est vraiment très bâtard, hein, Eric. Hein.
C'est très bâtard, voilà. Ouais. C'est-à-dire humidité et fraîcheur, c'est ça le gros souci. Alors déjà, c'est humidité et fraîcheur, on sait très bien que c'est la fête pour les champignons.
C'est ça.
Donc, voilà, ça va être clair. On sait très bien aussi que, par exemple, sur les pommes de terre, ceux qu'on plantait très tôt, ben, plein de gens qui me disaient... Bah, t'as vu, j'ai eu raison de planter très tôt mes pommes de terre.
Il fait chaud. Ouais, tu parles, ouais.
Bah, là, le problème, c'est très froid et humide. Ben, peut-être que le mildiou peut arriver plus facilement que prévu. Je rappelle, tous les champignons sont souvent présents chez le particulier. Voilà, ça, c'est clair, net et précis dans son jardin. Et le champignon ne demande qu'à une seule chose, c'est que les conditions où il aime bien se développent. Alors là, par exemple, mildiou, froid et humidité, on est plein dedans.
Ouais, c'est la fête au milieu, là, on est d'accord.
Voilà, ça, c'est important. Alors après, si on regarde les stades phénologiques, même si... Alors, le stade phénologique, je rappelle, c'est est-ce que le végétal est en bouton d'hiver, bouton de printemps, après floraison, et ainsi de suite, fruits, en fin de compte. Ben, là, on voit, par exemple, que dans le nord de la France, les lilas sont encore en fleurs, Et on disait toujours, planter les pommes de terre à la plus grande des lilas.
Oui,
voilà. Donc
ça.
Il faudrait planter ces pommes de terre. Si on plante ces pommes de terre maintenant, on va être tranquille. Voilà.
Même question sur les haricots. On sait que dans, normalement, on dégaine allez, début avril. Là, c'est juste pas possible, Eric.
Là, c'est...
C'est trop froid.
Alors même, je dirais, dans le sud de la France, le gros souci, c'est que le haricot, si le sol n'est vraiment pas chaud, alors quand je dis chaud, c'est 13-14 degrés hein, au minimum.
Ouais, on les a pas avec la flotte, là, Eric.
Ce qui va se passer, c'est que l'eau va gorger la graine et donc elle va germer. Mais le problème, c'est que la germination ne va pas aller jusqu'au bout parce que la germination va faire qu'avant que le pied lève à travers le sol, elle sera pourrie, quoi. Donc là, plus que tout, il faut surtout même pas semer dans des godets en avance, comme le font des fois au nord de la France, pour replanter tel quel, parce que s'il fait vraiment trop froid, on ne pourra pas les planter. Et là, on voit que dans les 15 jours qui vont venir, les températures ne sont pas près, surtout la température matinale et de nuit. Elle est vraiment très, très en dessous.
Je reviens sur l'histoire des semis de tout le monde hein, qui là maintenant.
Là, faut bâcher, il faut mettre un voile, comme si on était presque un voile hivernal. Hein. Mm-hmm. C'est la seule solution. Je vois les maraîchers sur les salades, parce qu'il faut savoir qu'une salade, bon, on va pousser tranquillement, mais si les bords des feuilles sont un peu jaunis par un petit coup de froid,
oui, elle n'est pas vendable.
Elle n'est pas vendable.
Voilà,
c'est ça le truc.
C'est ça le truc,
pas qu'elle n'est pas mangeable, mais elle n'est pas vendable.
C'est ça.
Là, les maraîchers avaient mis des voiles blancs sur les respirants. Hein. Je préfère parler ça comme ça. C'est pas vraiment le terme technique, mais au moins ça donne une meilleure image aux gens. C'est pas une bâche plastique. Hein. Le gros souci, c'est que ces salades-là, ça va être un peu compliqué. Alors, ça veut dire peut-être qu'il faut avoir des serres. Et là, par exemple, j'étais dans une région alsacienne qui fait beaucoup de maraîchage. Et les habitants que j'avais en formation étaient un peu offusqués de dire de plus en plus, les maraîchers, ils ont des plastiques, ils ont des tunnels, ils ont des choses comme ça, et on en a marre de voir du plastique pas forcément traîné, parce que souvent, des fois, c'est du plastique biodégradable, même l'agriculteur, le maraîcher, l'enterre dans le sol. Alors après, ça, de savoir si c'est bien ou pas, je n'ai pas fait d'analyse là-dessus. J'ai d'ailleurs demandé dans un secteur là qu'il le fasse avec le maire pour que le maire il arrête pas d'avoir des plaintes des habitants pour qu'il sanctionne tous les plastiques qui sont ici et là. Alors moi je lui dis au maire que ça serait peut-être intéressant de faire un test avec la population et les maraîchers de voir comment évolue ce plastique dans le sol et comme ça permet de trouver une solution, je dirais, de conciliation. Mais le maraîcher aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de tunnels, et notamment même en maraîchage bio, parce que sinon il ne va pas y arriver. Quoi.
C'est vraiment un gros débat, hein. L'agriculture bio face au plastique. Alors les conventionnels un peu taquins vont dire « oui mais regardez, eux avec leur plastique, ils ne sont pas plus bio que moi avec quelques traitements et mon tracteur ». Oui, mais aujourd'hui, on est considérablement un tunnel permet d'étirer la saison aussi.
Et bien là, évite de prendre la flotte, par exemple.
Et évite de prendre la flotte, effectivement, etc., etc. Donc, enfin, il y a vraiment
c'est pour ça que,
des arbitrages très compliqués.
C'est pour ça que rien n'est simple en ce moment. Hein, je veux dire, faut pas.
Oui, c'est que le début. Hein.
Faut vraiment être dans la réflexion et ce qui serait bien. Là, on n'arrête pas de parler de conciliation, enfin de réflexion sur des problèmes politiques et compagnie, ça serait bien, suite à les événements de l'agriculture qu'on a eu, d'avoir un peu une vérité, pas vraie, mais une vérité, je dirais, technique et pédagogique, qu'on pourrait donner aux habitants sur la réalité, quoi. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les exactions que font, entre guillemets, des mesures agricoles sur les sols, les gens ne comprennent pas exactement est-ce que le fait de mettre des engrais, des pesticides... Moi, je trouve qu'il faudrait un véritable moratoire, je dirais, d'explication, mais net et précis. Parce qu'avec les réseaux sociaux, y a ceux qui sont il y a aussi la notion du trop, hein, trop d'arguments négatifs, trop d'arguments positifs. Et je trouve que ça serait une vraie solution de compréhension et de les uns faire leur mea culpa, de dire on fait ça, je sais que c'est pas bien, mais c'est mieux que ça. Et je trouve que les gens ne sont pas bêtes aujourd'hui, ils le comprendraient. Et je trouve que ça serait super intéressant. Et c'est surtout pas Brice et Eric qui sont là pour juger ou faire... et c'est surtout une réalité, je dirais, technique et scientifique, avec des sommités comme il en existe, hein, qui ont toujours un discours posé pour expliquer ce qu'il faut faire. Parce que de toute façon, là, on le voit bien, hein, on en profite d'en parler aujourd'hui, parce que Là, en une semaine, entre les deux podcasts, je veux dire, on s'est pris 20 degrés en
20 degrés d'amplitude.
Donc, c'est quand même important. Et c'est pour ça que ça serait bien d'en discuter. Et je dirais, allez, soyons fous. Nous, on est prêts, je crois. Brice, je ne sais même pas au courant ce que je vais dire. On pourrait être prêts à je sais pas, avoir des gens qui puissent parler, évoquer ce sujet, mais des gens qui ne sont pas dans le fait de casser l'autre dans son activité, vraiment.
Tu vois ça comment dans ce podcast
témoignage, ou... un témoignage, je ouais. sais pas, de dire, mais vraiment quelqu'un...
On a, alors tiens, oui, pardon, je rebondis et je reprends la balle au bon. On avait évoqué d'une espèce de répondeur. Alors, faut qu'on regarde si techniquement, mais est-ce que, enfin en vocal en tout cas, en message ouais. vocaux, aujourd'hui on arrive à faire les choses de façon très simple avec un téléphone. Pardon, hein, je parle de smartphone. Voilà, certains n'ont pas encore de smartphone ou ne veulent pas, c'est votre choix totalement, mais si... Effectivement, si c'est une bonne idée, dites-nous tiens, dans les ouais. mails, écrivez-nous hein, contact@monjardinbio.com d'une espèce de note vocale. Alors, j'ai piqué un peu l'idée à l'excellente émission que je cite souvent dans ce podcast qui est La Terre au Carré. Émission un peu militante des fois, mais ça fait du bien quand même pour se tenir au courant. Et puis, à force d'écouter, on se rend compte que certaines personnes sont vraiment déconnectées quand même. Encore déconnectées. Ouais. Quand on lit, c'était hier soir sur les réseaux sociaux, on ne va pas citer la personne, mais elle était du côté de Levallois-Perret, qui dit « Vive le réchauffement climatique, j'ai je ne sais plus quoi, mon arbuste en fleurs avec 3 semaines d'avance. » C'est vrai qu'on peut se satisfaire de ça. Mon Dieu que c'est flippant quand on voit le peu de prise de conscience de certains. Ouais. Et au final... le problématique, c'est qu'il y a des conséquences absolument gravissimes. Et puis, juste pour terminer sur le coup de gueule, quand on voit l'emballement médiatique autour des énormes inondations de Dubaï, on va rappeler qu'il y a des centaines de pays qui sont sous la flotte très régulièrement. Mmh. Et ça atteint moins, peut-être l'opinion publique. En tout cas, enfin voilà, cette espèce de décalage qui me rend des fois un petit peu dingue.
Pour ça.
Mais en même temps, je suis pas là pour partager mes états d'esprit, mais dans la réflexion qu'on a tous là dans ce podcast, c'est aussi intéressant d'avoir vos retours par rapport à ça. Donc voilà, l'idée, on lance une idée comme ça.
Oui, voilà. Ouais, alors bien sûr, bien sûr, ça c'est pas nos auditeurs, nos auditrices, mais les fous furieux de la discussion des réseaux complètement débiles, s'abstenir quoi.
Oui, mais je pense qu'ils nous écoutent pas ces gens-là.
Non.
Et on les laisse là où ils sont. Voilà, faudra m'expliquer comment en 24 heures ils arrivent à déverser autant de haine sur les réseaux sociaux. Moi, je n'y arrive pas à déverser de la gentillesse. Donc, je sais pas. Question de planning sûrement. Allez, ouais. On va passer au tempo du jardin ouais. si on a fini cette petite édito, n'est-ce pas ouais. Donc en gros, attends juste pour terminer, wait and see comme on dit. On attend. Pour l'instant,
oui, voilà. Alors, en sachant que, ce qui est possible de dire, c'est que aujourd'hui, on peut tout faire au jardin au niveau des plantations. Bien sûr, tous les légumes du soleil. Si on est au nord de la France, pour faire simple, on est plutôt, pour l'instant, sous serre. Dans le sud, en principe, on les met hors serre. Hein, y a pas de souci. Mais tout ce qui va être les plantations et voir à partir de la semaine prochaine les semis, on peut tout faire.
Oui, mais on va le rappeler quand même que les légumes du soleil à 4 degrés, c'est pas trop leur...
Non, c'est pour ça, je veux dire, voilà. Si c'est pas sous serre, je vois pas comment, quoi. Hein.
Ouais,
mais globalement, faut même pas se poser la question, et que ça soit même au jardin d'ornement, pour toutes les plantations, on peut planter les bulbes d'été, il n'y a pas de souci. On peut commencer à confectionner les jardinières et les vasques, mais à condition de pouvoir les rentrer, s'il y a un petit coup de soleil, on les met dehors, mais par contre, il faut les rentrer. Donc voilà, d'ailleurs, on le voit bien... les catalogues, la communication, même si déjà on a tout en grande surface de jardinerie et compagnie, c'est pas chaud, je dirais, au niveau de la communication sur les ventes de géranium ou autres plantes en pot. On voit bien que là, quand même, il y a une réflexion, il fait trop froid, on est clair, mais on peut imaginer qu'on peut tout faire, quoi. Hein. Là, d'ici 8-10 jours, on peut tout planter, tout semer. Mais voilà, il y a ce petit point, ce petit delta température qui fait que, voilà, si on décale de 15 jours, c'est pas grave. De toute façon, il faut se dire que tout ce qu'on va décaler de 15 jours sera rattrapé après. Hein.
Donc, on est d'accord, bien voilà. sûr. Y a pas,
je dirais même, là, moi, j'étais prêt à faire du semis de carottes précédemment, je ne l'ai pas fait. Là, bien sûr.
Mais de toute façon, tu n'as rien perdu, Eric. La terre est froide.
Non. Enfin... Là, je voulais en profiter, comme c'était sol, de préparer déjà mes sillons pour mes carottes et mettre un petit peu de sable au fond pour les semis voilà, avec du terreau, bah, je le fais pas, parce que si je vais dans le jardin, le sol est trop collant. Donc le fait de marcher dessus, bah, vous tassez le sol, c'est-à-dire que tout l'effort que vous avez fait de décompactage peut-être pendant l'hiver et l'automne, et tous les premier travail, bah, dès que vous retournez dans votre jardin, bah, c'est complètement HS. Cette année, je suis en expérimentation, j'utilise beaucoup les cartons pour plein de choses. Alors à la fois pour couvrir le sol, pour éviter que des plantes indésirables qui étaient en excès repoussent. L'autre aussi pour essayer de maintenir une certaine humidité. Bon là pour l'instant j'ai gagné hein, vu l'humidité qui tombe. Pour l'été, pour voir est-ce que le fait de travailler avec carton, ça permet de garder un peu plus d'humidité. Et aussi dans l'entre-rang, est-ce que le sentier, que moi j'ai pas vraiment de sentier, je marche souvent dans les rangs, est-ce que le fait de mettre du carton au sol limite le tassement avec le pied. Voilà, ouais. Donc comme j'ai eu un stock de carton, je teste là-dessus.
Alors, carton non imprimé, Eric, hein, tu le précises.
Non imprimé, bien sûr.
Voilà, c'est carton neutre. Quoi.
En sachant que ce n'est pas une bonne solution, hein, c'est parce que là, c'est aussi mais c'est plutôt un déchet que je vais essayer de valoriser, voilà, pour voir ce que ça donne dans des situations, dans des petits jardins, où des fois, c'est plus compliqué de travailler que dans des grands jardins, hein, je rappelle toujours. Hein, gérer un jardin, aménager un petit jardin est beaucoup plus compliqué qu'un grand jardin. En quantité de travail. Donc voilà, mais tout ça pour vous dire que voilà, j'essaye au maximum de protéger le sol et l'eau dans le sol, la matière organique dans le sol.
Bien, Eric, juste avant de passer à vos questions et réponses, on n'a même pas parlé du sujet de la semaine,
oui,
qui est consacré à toi.
Bah, ou perpétuel, c'est-à-dire aux légumes perpétuels.
Je voulais faire une vanne dessus, genre lui il est aussi perpétuel, on l'espère mais aussi perpétuel que certains légumes, c'est Eric. Enfin, un truc comme ça, mais voilà. On va parler des légumes perpétuels. Ouais.
Alors pourquoi je parle de ça? C'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a une vente, il y a des communications qui sont faites beaucoup sur les poireaux perpétuels, l'oignon rocambole, haricot d'Espagne, orteil du prêcheur, le chou d'eau bonton. Voilà, c'était pour donner quelques informations là-dessus parce que. Des fois, il y a des petits excès de prix, voilà. Est-ce que c'est nécessaire de dépenser un prix?
Est-ce que s'il y a des petits excès aussi de mode, hein, peut-être?
De mode, voilà. Mais voilà, c'est simplement pour donner un avis là-dessus, qui me semble important en ce moment, en sachant qu'il y a quand même des belles réussites. Et vous verrez, globalement, c'est souvent des légumes quand ils sont dits perpétuels. Je livre tout de suite une chose, c'est qu'ils sont facilement échangeables, partageables. C'est-à-dire que entre jardinier et jardinière, il y a possibilité d'en récupérer chez les uns et les autres.
On est d'accord. Et puis, on va le rappeler que chaque légume non hybride est perpétuel puisqu'on peut le ressemer.
C'est ça, aussi. On peut le dire, on peut dans ce sens-là.
D'une certaine manière, tu récupères les tomates de tes graines non F1 reproductives, tu peux faire...
Exactement.
Bon, on est d'accord, mais bon, on ouvrira le débat dans la troisième partie de cette émission. Auparavant, on va commencer par Olivier à Montpellier qui nous dit « Bonjour à vous deux, suite à votre écoute régulière, j'ai porté attention particulière aux petits fruits avec le retour des beaux jours. J'ai remarqué que mes plants de mur de l'an dernier... eux-mêmes issus de boutures de l'an dernier que j'ai laissé vivre, ont naturellement magnifiquement marcoté. Je me demande s'il est nécessaire de tailler la mûre, de séparer la partie qui a marcoté, et si oui, quand et comment le faire. Encore un immense merci pour vos précieux accompagnements. Olivier de Montpellier. Il nous a envoyé effectivement une photo où ça a bien pris. Hein.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la mûre, même si elle peut être une mûre cultivée, même une mûre qui est hybridée, par croisement, comme la muroise, Loganberry, Taïberry, il faut savoir, elle garde son caractère ancestral, qui est que la mûre sauvage a une grande part de la colonisation des milieux, herbacés, pour installer la forêt. Donc la mûre se multiplie par différentes situations, même par semis, mais celle qui fonctionne le mieux chez la mûre, c'est la multiplication par marcottage d'extrémités. C'est-à-dire que quand la mûre va émettre un rameau dans l'année de plus de 3 à 4 mètres, hein, voire 5 des fois dans certaines situations, eh ben, son objectif, c'est de, quand elle fait ce grand rameau, c'est de pouvoir mettre le plus loin possible son pied mère vers le plus loin possible, de manière que l'extrémité de chaque rameau s'enracine. Et ça s'enracine très très rapidement, en 10 jours. Hein. Donc ça garde, c'est pour ça que quand on va cultiver des murs sauvages ou des murs cultivés ou des murs de croisement, il est plus intéressant de palisser les cannes que l'on a tous les ans, de manière qu'elle évite de se marcoter, parce que sinon on en a partout. Hein. Aussi ça limite la production de fruits souvent, parce que l'esprit du rameau n'est pas vers une production de fruits, mais plus vers une production de matière végétale. C'est-à-dire le pied-mère, il ne peut pas à la fois donner un coup de pêche, même si l'enracinement est rapide, en même temps sur les murs qu'il va produire, en même temps sur le pied-fille qui va démarrer. Donc l'intérêt, c'est un, éviter autant que possible que le pied, que les rameaux se marcotent à l'extrémité. Si on le souhaite pour la multiplication, à ce moment-là, c'est au printemps, il faut les couper. Et l'idéal, c'est que souvent, c'est marcoté pendant tout à l'automne précédent et pendant l'hiver, c'est de la déplacer et de le remettre à un endroit.
Donc, on coupe, oui, mais au printemps. C'est trop tard.
Ouais, voilà, non, on va le couper quand c'est déjà enraciné. Là, comme on est déjà très tardivement, alors ce qu'on peut faire, c'est couper, bien sûr, il faut obligatoirement couper le rameau et de le repalisser sur le rameau. Et là, voilà, si on arrive à faire une belle motte, je dirais à la bêche, là, pas fourche-bêche, hein, bêche, on arrive délicatement à soulever la motte, on peut enlever ce pied marcoté, je dirais, et de le mettre ailleurs.
Bien, on va chez Charles.
Oui.
Allez, bonjour les jeunes. Mais il n'a pas vu nos gueules. Hein. Encore bravo pour votre travail, pour tout votre travail. Je répète à chaque mail, mais en a-t-on jamais assez ? C'est vrai, Charles. J'ai plusieurs questions et une remarque. J'ai créé une mare il y a un an. Elle attire la biodiversité. J'en suis plutôt content. Néanmoins, il s'y développe une algue verte que je retire régulièrement. Mais dès que je ne suis pas assez et que j'en ai pas assez, cela revient sans cesse. Elle couvre tout et j'ai peur qu'elle détouffe tout. Pourquoi elle prolifère et comment s'en débarrasser plus durablement ?
J'ai pas écouté au début. Est-ce qu'il y a des poissons dans sa mare ?
Alors, il n'y a pas le... Je ne sais pas. J'ai pas de précision, Charles, si vous pouvez nous dire.
Bah là, s'il y a des poissons et si l'eau est. La quantité d'eau n'est pas assez importante, globalement, par rapport aux poissons, c'est une eutrophisation de l'espace, donc il y a beaucoup trop d'azote.
Et en gros, c'est le caca des poissons, c'est ça ?
C'est le caca des poissons qui va favoriser le développement d'algues, mais sur des. Ça peut être nauséabonde, ça va tout obstruer. Donc, on dit toujours qu'une mare doit être sans poisson.
Ouais. Enfin, ta mare à toi, attention, ta mare à toi.
Ouais, ça devrait
être... La mare de Eric, elle est sans poisson.
Voilà. Alors, quand on dit à mare, c'est plutôt un petit bassin. Hein, voilà, une mare qui est très, très grande, qui fait plusieurs... qui fait plusieurs arts, ça, c'est autre chose. Hein, c'est un étang. Hein, donc, c'est bien là, bien sûr qu'il y a du poisson, il n'y a pas de souci. Mais là, on voit bien la quantité de poisson qu'il y a dans un étang par rapport à... à la quantité d'eau. Hein. D'ailleurs, on voit bien des fois des pêcheurs qui rentrent bredouille. Ça veut dire qu'il n'y a pas autant de poissons que ça, même si c'est peut-être des mauvais pêcheurs. Mais le principe, c'est qu'il ne faut pas de poissons. Donc, sinon, il y a trop d'azote, et notamment tout ce qui va être carpe, coï et compagnie. Hein. Même le poisson rouge, s'il y en a beaucoup, parce que s'il se sent bien dans votre mare, vous allez voir, vos deux ou trois poissons rouges, il va y en avoir des dizaines qui vont se développer. Donc voilà, alors pour si vous voulez continuer à avoir des poissons, il faut mettre un système de filtration. Voilà, on peut pas faire autrement. Qui existe aujourd'hui, alors c'est bien parce qu'on n'a pas besoin d'être un bricoleur électricien aujourd'hui avec des systèmes.
Lampe UV par exemple, hein, c'est ça ?
Pardon ?
À lampe UV par exemple.
Oui, voilà. Et puis on peut avoir avec du photovoltaïque des choses qui peuvent être très faciles, hein, qui permettent pas de pomper l'électricité sur l'électricité familiale. Donc ça peut être une chose. Et puis dans un premier temps, faut en enlever un maximum, je dirais, entre guillemets, à l'épuisette, hein, une petite épuisette.
Et puis on fait une friture.
Il y a des possibilités de mettre dedans de mémoire, mais voilà, c'est de mémoire, je crois, si c'est de l'avoine ou un truc comme ça, qu'on peut mettre dedans, et le fait que ça va limiter la quantité, je dirais, d'algues.
Parce que ça pompe l'azote, c'est ça ?
Ouais, c'est ça, ouais. Et ça va empêcher justement le développement des...
Alors justement, et si Charles n'a pas de poisson et qu'il a quand même des algues vertes, comment est-ce que c'est possible ?
C'est qu'il y a une source d'azote quelque part en excès.
D'accord. C'est le principe des algues vertes en Bretagne, quoi, c'est ça ?
Voilà, c'est ça, ouais. je veux dire en principe...
Précisez-nous, Charles, ça nous intéresse là pour
le coup. Oui, parce que poisson là, à mon avis, poisson. Il doit y avoir un problème. S'il y a poisson, de toute façon, qui dit poisson dit... poisson, petit bassin... Il faut mettre un système de pompe et compagnie. Sinon,
c'est d'ailleurs le principe de l'hydroponie. Hein. Tu les connais, Eric, ils sont chez toi, là, MyFood. C'est grands serres très chers, avec un bassin, avec des poissons qui réirriguent, etc. Ouais. C'est la base de l'hydroponie. Quoi.
Et puis bon, ce qui peut être intéressant, c'est le fait des pompages d'azote qu'on a dans le sol. C'est que quand on a des poissons, il faut avoir obligatoirement une végétalisation dans l'eau. Mmh. C'est-à-dire pas simplement de bord de bassin.
Dedans, pour vraiment
dedans
pomper,
pour que ça puisse pomper l'azote. Hein.
Autre question, que pensez-vous des boules de bouturage ? Alors, ces boules que l'on fixe à la branche d'un arbre avec un substrat pour obtenir une bouture. J'ai vu ça sur un site, vous connaissez les merdouilles chinoises, là, enfin les sites, je crois sur Temu. J'ai vu une pub l'autre jour, forcément je me fais cibler en pub. Des espèces de trucs en plastique, ça a l'air bête comme chou. T'en penses quoi, Eric ?
Bah, ça marche très très bien, mais la boule de bouturage, c'est vous prenez un sac congélo, quoi, et puis vous mettez...
Ouais, ça sera moins cher.
Ça sera moins cher, et ça marche très très bien, hein. Ça se faisait avec de la mousse, hein. Ça s'est toujours fait ça, et notamment sur les plantes, les plantes d'intérieur.
Ok, c'est simple. Ok.
Voilà, alors en réalité, c'est un bouturage marcottage, hein, parce que c'est comme si, au lieu de pencher la branche vers le sol...
Ouais, on la met vers le haut.
On la laisse, et puis on amène un substrat vers la hauteur, hein. Vous faites un mélange de terre et de compost, mais surtout avec quelque chose qui est un peu aéré dedans, hein. C'est pour ça qu'à l'époque on mettait de la mousse dedans. Alors j'évite de trop le dire parce que je voudrais pas qu'on enlève la mousse de la forêt, hein. On dit oh, il y en a plein de mousse en forêt, ouais, mais c'est des écosystèmes tellement particuliers et tellement...
Et on n'a pas le droit de le faire surtout, hein,
on n'a pas le droit de le faire, hein, je le rappelle.
On peut mettre un terreau, Eric, à la place ou pas ?
Oui, on peut mettre quelque chose qui est un peu, je veux dire, très aéré. Hein.
Ouais. Alors, donc pas de tourbe,
idéalement. Pas de tourbe, mais ça peut être ce qui remplace aujourd'hui tout ce qui est copeaux de trucs, copeaux de coques, des choses comme ça,
ouais.
Qu'on peut mettre dedans. Et il faut maintenir à l'humidité, hein, bien sûr, donc c'est pour ça qu'avec une petite pipette, on met un petit peu d'eau dedans. Mais on peut très bien, avec deux liens et un sac plastique, le faire.
Bon, ben voilà. Charles, au cas où, donc vous avez la réponse. Troisième question. J'ai besoin de tondre mon potager pour pouvoir y circuler et laisser les enfants y gambader. Je serais intéressé de savoir s'il y a des techniques pour tondre en détruisant au minimum la biodiversité. Sauterelles, orveils, grenouilles, crapauds. Faut-il y aller très doucement, taper l'herbe avant de passer ? Peut-être que les auditeurs ont leur technique aussi.
Alors, sur de l'herbe, globalement, sur de grandes surfaces, il faut toujours tondre du centre vers l'extérieur.
Ah, pour les animaux puissent fuir, c'est
alors,
ça
je crois que ça s'appelle centripète, hein. J'ai toujours un problème entre centrifuge et centripète.
Centrifuge, c'est vers l'extérieur, normalement, donc c'est centrifuge, logiquement.
Ouais, centrifuge.
Et centripète, donc c'est vers l'intérieur.
On commence au milieu, pour faire simple.
Ouais.
Pour ça qu'il y a des techniques, que vous trouvez, c'est pas parce qu'ils vont travailler avec les martiens, mais ils tondent.
Ouais, ils font pas des crop, je sais plus quoi là.
Oui, des crop tops.
Ouais.
Et donc le principe, c'est qu'ils commencent au centre de manière que la biodiversité puisse s'échapper. Mais il faut pas oublier que même un lézard, ça va très vite, mais une bestiole ou un insecte ne va pas très vite. Hein, donc,
alors,
fait de tondre au-dessus de 10 cm,
voilà,
c'est une bonne chose.
C'est là où j'allais en venir. Ouais.
C'est pour ça que faucher et notamment passer la faux. Ça c'est top.
Oui.
Parce que la faux, on peut adapter la hauteur que l'on veut, quoi. Voilà. Donc, me demandez pas comment faut faucher, parce que je suis incapable de tenir une.
Oh, arrête.
J'arrive pas.
Bon, il y a la faux. Alors, dans
la faux, je sais faucher, mais le problème c'est que quand je vois mon taux de rentabilité à la faux, moi, je suis crevé au bout de rapidement.
C'est physique, hein, c'est sûr. Voilà. Après, il y a un point aussi. Alors, on va ouvrir le débat. On a déjà eu ici des débroussailleuses parce que ça erre. Maintenant, il y a des systèmes électriques aussi qui font moins de nuisance, etc. Bon, voilà. Moi, je pose juste la question. J'ai essayé de chercher. Ça fait des mois que je cherche. Aujourd'hui, on va le rappeler, la débroussailleuse, c'est très pratique, mais ça laisse quand même des bouts de fil dans son terrain qui restent du plastique. C'est quand même juste hallucinant. C'est très compliqué. Alors, il y a des couteaux, mais c'est compliqué. Moi, je vais essayer de tester des systèmes avec des chaînes, tu sais, Eric, qui est plus durable, parce que mine de rien, le plastique qu'on laisse
Moi, j'étais un débroussailleur fou avant, quand j'étais dans le milieu agricole. Les bobines, chez moi, c'était terrible. Hein.
Ça passe, voilà, c'est des mètres et des mètres et des mètres. Et quand on fait les talus et compagnie, on se dit waouh. Alors, non seulement on râle quand la commune, la municipalité passent leur gros bras là et que tous les idiots, il n'y a pas d'autre mot, qui balancent au bord de l'autoroute et au bord des routes des sachets plastiques et des emballages de fast-food, et encore ceux-là sont en carton, mais on voit très bien de quoi on parle. Mais c'est vrai que le particulier là, quand tu passes à des broussailleuses, ça laisse quand même beaucoup de déchets, quoi, hein.
Mais c'est vrai que la débroussailleuse, qui a une faux électrique, hein, mécanique, hein, pour faire simple, c'est la meilleure façon, c'est mieux que la tondeuse. Hein.
Oui, parce que ça ne broie pas. C'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire qu'entre couper une grande hauteur, après, enfin, c'est comme ça qu'on fait du foin, Eric. Hein,
oui, c'est ça.
Et broyer, il y a moins de casse quand tu fauches.
Complètement. Et le principe du foin, et souvent quand on va faucher, par exemple, on ne le dit peut-être pas assez sur le podcast, mais quand on fauche, le but du jeu, c'est qu'on va laisser sur le sol le résultat de la fauche, globalement. Et donc, s'il y a des bestioles qui sont au-dessus, ben, ils auront le temps d'aller au fond, surtout si on fauche au-dessus de 10 cm, il n'y a pas de souci. C'est vrai que passer tant que vous ne mettez pas le fil sur le sol, qui fait qu'il y a de la poussière après, c'est vrai que c'est la meilleure façon de pouvoir préserver la biodiversité.
Et il y a un point aussi, on va le rappeler, on a vu des publications, Eric, sur les réseaux sociaux, parce qu'encore une fois, à partir du moment où vous êtes identifié par les réseaux sociaux comme quelqu'un qui est adepte du jardinage, vous avez tout et son contraire. On voit, alors j'ai plus les températures en tête, mais un gazon qui est coupé green de golf à 3-4 cm, un gazon un peu plus haut à 10, et puis après la prairie, on voit la différence de température. On voit évidemment que le sol fonctionne, puisque Eric, c'est 28 degrés, je crois. Un sol qui a chaud, il bouge quasiment plus. Et ça veut dire aussi que plus c'est haut, mieux c'est. Alors, on est d'accord que c'est moins esthétique, mais maintenant, aujourd'hui, il existe des mélanges, notamment des mélanges avec des gazons fleuris, des choses mi-hauteur, pas très hautes, qui permettent quand même d'y aller éventuellement. Si vous y allez juste le dimanche pour vous balader sur votre pelouse et vous faites un barbecue dessus ou vous étendez la serviette pour bronzer, c'est peut-être... Voilà, mais on change vraiment de logiciel parce que le gazon coupé à ras par le fameux robot tondeuse qui passe toutes les nuits, c'est peut-être plus qu'il faut dans les prochaines années, Eric.
Ah oui, complètement. Et il faut savoir aussi que si vous avez des petites surfaces, alors je dis bien, hein, pas plusieurs arts, hein, y a un outil qui marche bien, c'est la traditionnelle cisaille à gazon, ce qu'on appelait la bordurette, mais à main, hein, voilà, ce ciseau qu'on appuyait sur l'un et voilà, qui permettait de
couper. Oui, un ciseau, quoi. Ouais, voilà.
La cisaille à haie, très bien affûtée.
C'est ça.
Il faut qu'elle soit très bien affûtée. Bah, quand vous avez quelques mètres carrés, moi, je vois, par exemple, sur les petits fruits et compagnie, alors soit j'arrache à la main, je remets sur le sol, pour faire simple, ou soit je prends ces fameuses cisailles. Alors, je sais que c'est un petit peu de boulot, voilà, mais quand c'est bien affûté, ça évite d'avoir des ampoules, hein, comme dit. Et ça vous permet de couper à la dimension que vous voulez. Ça évite, par exemple, quand des plantes, que vous avez des adventices, et vous souhaitez les maintenir parce que votre sol est ainsi couvert, mais vous dites, oui, mais quand ça va fleurir, j'en aurai partout, et ça, c'est vrai. Bah, vous prenez votre cisaille, vous coupez les têtes qui sont en train de fleurir, et ça vous évite. Alors, quand je dis, voilà, la floraison est importante pour les insectes pollinisateurs, il n'y a pas de souci, mais si vous avez un potager pour éviter que ça se ressème, par exemple, vous avez quelques amarantes ou d'autres fleurs, voilà, sénessons et compagnie, bah, vous les coupez avant, vous les laissez sur le sol, là, vous ne faites aucun préjudice. Hein.
Voilà. Remarque.
Moi, j'ai toujours mon désherbeur, entre guillemets, faucheuse, voilà, j'ai acheté une cisaille d'excellente qualité. Voilà, je dis d'excellente qualité.
Quelle marque, dis-le, parce que...
Oui, moi j'achète Wolf. Hein.
Wolf, ok, outil
voilà,
alsacien.
Avec, surtout utiliser celle qui a plutôt un... les lames ne sont pas droites, mais elles font un peu...
Crantées
Enfin, pas crantées, mais ça fait une vague.
Ok.
Des vagues, comme ça, quand vous tombez sur quelque chose qui est un peu plus gros, ça coince forcément dans la base de la vague.
Ouais, exact.
Et vous avez plus de force.
Donc, outil Wolf.
Et là... Ouais, moi voilà, c'est très bien, très bien. Alors après, on peut aller acheter chez type Emmaüs et compagnie, mais attention parce que les lames sont un peu tordues et justement c'est la justesse des lames qui fait avec le tranchant qui fait que la coupe sera super bien. Mais franchement, utiliser un taille-haie, même peut-être électrique, hein, j'ai jamais testé, hein, tiens, à tester pour voir. Si vous avez un taille-haie comme ça, bah, ça vous fera peut-être moins de dégâts sur des petites surfaces que si vous passez la tondeuse dedans.
Eric, autre question et autre remarque. J'ai eu des attaques de limaces, un peu de bière dans un cul de bouteille plastique avec un pot retourné par-dessus pour protéger de la pluie. Ça a très bien fonctionné. Ça fait ouvrir une bière, mais le reste n'était pas gâché. Ouais. Merci encore et bonne continuation. Alors, un grand classique, hein, les
Oui, la bière, très très bien.
Voilà.
Voir simplement qu'il faut toujours vérifier la première semaine s'il n'y a pas autre chose que des limaces dedans.
Ouais, voilà. Donc, ça, à surveiller quand même.
Voilà, c'est pour ça, ne mettez pas des coupelles très profondes. Hein. Un dessous de peau, par exemple, est bien suffisant. Le lisard pourra vite passer. Mais si vous avez autre chose que des limaces dedans, je vous invite à ne pas le mettre. Et surtout, si vous mettez des protections limaces contre les limaces, mettez-le plutôt à l'extérieur de votre, autour de votre potager pour éviter qu'elle rentre dedans, parce que sinon, ça va t'attirer. Et la limace va peut-être être attirée par la bière, mais si avant, il y a une pousse, ça va la manger quand même.
Voilà Charles, merci en tout cas, dites-nous hein, pour ce bassin, là, pour cette mare, ça nous intéresse aussi.
Ouais.
Olivier qui nous dit bonjour, Brice, bonjour Eric, d'abord merci pour, pour la nette amélioration, attendez je reprends, d'abord merci pour la nette amélioration de la qualité sonore de votre podcast, vous avez vu, on progresse. J'ai deux demandes de conseils pour vous, j'ai un pêcher, 3-4 ans, issu d'un semis de noyaux qui cloque tous les ans.
Ouais. Ouais.
Et qui ne donne pas encore de fruits. Auriez-vous des conseils pour éviter cette maladie et faire en sorte qu'elle fructifie, enfin qu'il fructifie plutôt? Voilà, pardon, la première question.
Voilà, donc cette question, ça va être très simple. C'est que là, il faut qu'en 2024, que l'auditeur aille trouver un pêcher qui ne cloque pas.
Ah.
Et dans un objectif que son pêcher qui cloque, il le vire, quoi. Hein.
Mais c'est quoi ça peut c'est,
donc, à mon avis c'est une sensibilité.
Donc l'ail, les cheveux.
Alors après justement, ouais, pour lutter contre ceci, il faut savoir que si vous voulez garder absolument ce pêcher, il faut faire un traitement cuivre bouillie bordelaise fin décembre, voilà.
Ok.
Maintenant, mais fin décembre.
Donc sur bois, on est d'accord.
Ouais, sur bois, voilà.
Voilà, on peut mettre une bâche autour, on l'a déjà dit.
Les cloques n'affectent pas le bourgeon à fleurs.
Ok.
Enfin le bourgeon qui va donner des fleurs. Mais il va affecter les bourgeons qui vont donner que des feuilles. Voilà. Donc c'est ça le but du jeu. Et donc c'est pour ça qu'il faut le faire très tôt, quand les écailles des bourgeons à bois s'ouvrent, et donc c'est fin décembre. Ensuite, en ce moment, l'objectif c'est d'enlever toutes les feuilles cloquées à la main. Donc ça c'est une chose, le mettre dans un sac et après le déposer au compostier, mais mieux encore au potager qui est un peu plus loin, comme ça sera bouffé par les vers de terre. Et puis faire des traitements avec tous les antifongicides qu'on a actuellement, qu'on peut trouver dans le marché, hein, voilà, et notamment la prêle, hein, vous pouvez faire une décoction de prêle, mais quand l'arbre est cloqué, il est cloqué, quoi.
Donc ça peut être finalement dedans, et l'idée c'est quand même de changer, quoi. C'est un petit peu.
Ouais, comme le pêcher entre guillemets, c'est une plante qui va vite se mettre à fruit. Si vous avez un pêcher qui est très 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 sensible à la ces feuilles qui se tournent, voilà, à la cloque, l'idéal c'est d'en mettre un autre, hein, vous allez voir un pêcher qui est ailleurs, alors c'est pas pour dire que celui-ci ne sera pas contaminé, hein, peut-être, hein, mais au moins ça va permettre de le remplacer. Alors, vous allez manger des pêches au mois de 2024, pêche de vigne, chez quelqu'un qui n'a pas de feuilles qui se tortillent, sans traitement, hein, bien sûr, parce que s'il traite à bouillie bordelaise de matière intensive, c'est pas celui-là qu'il vous faut. Et vous en semez, et puis comme ça, une fois que celui-ci aura bien poussé, vous enverrez l'autre. Hein.
Bon, Eric,
c'est la meilleure solution.
Deuxième question. Que me conseillez-vous comme des fleurs vivaces, blanches, de jardinière? J'aimerais éviter d'avoir des géraniums comme tout le monde. Un grand merci par avance et longue vie à votre podcast. Olivier, les géraniums, c'est quand même génial.
Ouais, le géranium, c'est quand même une des plantes les plus efficaces, je dirais, pour les jardiniers, parce qu'elles ont été identifiées, alors pélargonium, hein, je rappelle. Ils ont été identifiés créés pour ça.
Et puis ça attire surtout. Attends, c'est un piège à touristes formidable, Eric.
Ah oui.
Nous,
ah
en
oui,
Alsace, on le sait.
C'est pour ça que moi, je suis globalement. Je suis un des plus grands défenseurs, je dirais, en Alsace, de maintenir du géranium, parce que c'est notre carte de visite. Hein. Mm. Et donc, si on veut du. Voilà, c'est du blanc qu'ils voulaient, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ouais. Alors, vous avez une plante qui est vraiment super, que j'adore, parce que ça fait des toutes petites fleurs. Alors la fleur, elle n'est pas exceptionnelle, mais l'ensemble des fleurs fait que vous avez une masse de blanc qui est super intéressant. Alors il faut savoir que la plupart des plantes, entre guillemets, que vous allez planter, qui ne sont pas des géraniums, seront des plantes vivaces, mais considérées comme annuelles en France, voilà, sauf peut-être dans le sud de la France. Alors vous en avez un qui s'appelle le Bacopa, hein, ça, Bacopa, voilà.
Ouais.
Donc, c'est une plante qui est presque vivace, on peut la maintenir parce qu'elle est gélive à -7. Donc c'est une plante de mi-ombre à ombre, voilà, ça aime bien l'eau, donc ça peut être un super intéressant. Vous avez aussi en blanc, c'est de mettre aussi du feuillage blanc, hein, qui peut être certains carex, justement, hein, ces herbes qui sont là plein soleil, qui sont vivaces à 100%, là, donc ça fait entre 15 et 60 cm. Ou vous avez une autre plante qui s'appelle calocéphale, qui est une vivace, mais elle est gélive à moins 5. Donc si on rentre, les jardinières, on peut la maintenir. Donc ça, c'est plein soleil aussi. Alors c'est un feuillage qui est plutôt pas blanc, mais plutôt argenté. Donc c'est vraiment pas mal. Dans les coléus, alors là par contre, les coléus, vous savez, ça fait ces espèces de feuilles qui sont assez rouges globalement, mais il en existe des variétés un peu plus claires. Là c'est pareil, c'est gélif à moins 5, mais si vous avez une situation qui est à mi-ombre, ça peut marcher complètement. Et puis vous avez quelques bulbeuses qui peuvent être assez intéressantes, c'est des cyclamènes. Alors bien sûr, les cyclamènes, on les connaît plutôt de couleur, mais il en existe des blancs que vous pourrez mettre ici et là dans votre jardin, ça peut être assez intéressant. Et puis notre traditionnel dahlia, alors bien sûr dans les jardinières, c'est plutôt des dahlias nains, voilà. Là c'est souvent des plantes qui ont besoin un peu plus de bouffe, hein, mais on peut les mettre quand même au soleil, ça peut être super intéressant. Et puis si vous êtes vraiment dans une situation où il fait vraiment très 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 chaud, mais là on va pas trop travailler sur le blanc mais plutôt sur du feuillage plus clair, c'est les fameuses joubarbes, donc ça c'est bien. Et puis ce que j'aime bien moi aussi au niveau plantes, et vous en trouvez des blanches. Alors là, c'est des plantes complètement dingues, complètement curieuses au niveau des formes, hein. Je vous laisse découvrir cette plante. C'est l'ostéospermum, hein, qui est une plante complètement lunaire par sa forme. Voilà, quelques plantes que je pourrais vous conseiller. Mais je sais que le géranium, c'est pas votre truc, mais pensez quand même à garder quelques géraniums. Alors je sais, par exemple, il est mal vu, mais c'est quand même une des plantes qui est le plus efficace. Alors après, vous avez les traditionnels,
c'est une question de goût,
Alice, hein. Hein, blanche, ouais. Hein, qu'on ouais. connaît. Voilà, qu'on peut. Il y a le mufflier qui est vraiment pratique aussi. Alors bien que dedans, c'est très compliqué d'avoir qu'une seule coloris, mais on a du blanc, en passant par le rouge, en passant par le jaune. Donc voilà. Faites vos tests, je veux dire, de toute façon, il n'y a pas le bon conseil, c'est vous qui le faites par rapport à votre envie de décoration, et on le voit très bien dans les communes. Chacun a sa petite, forme, disposition, aménagement. Là, je pense encore à un autre truc qui peut être sympa, c'est le bégonia, le petit bégonia tubéreux, qui est souvent rouge, mais il existe des variétés blanches, hein, voilà. Et une plante qui est quand même très efficace, mais qui n'est pas blanche, mais qui est quand même plus claire, qui tire vers le jaune, c'est le bidens, hein, qui est vraiment pratique. Et là aussi, ça, c'est une plante qui se conserve parce qu'elle est gélive à moins 5.
Bien, voilà, en tout cas, on va continuer par Caroline, qui n'est pas une question, mais c'est très drôle. Bonjour, cette fois-ci, je ne vous écris pas pour vous poser une question, mais parce que je pense que les jardiniers du parc Champbeauvais à Lyon écoutent votre podcast assidûment. Alors Caroline, je cite, hein, haie de Benjes, Mars, spirale aromatique, ton raisonné, tout y est. Non, en vrai, il manque encore la haie de petits fruits, mais ce sera certainement pour l'année prochaine. Merci à vous, signé Caroline.
Elle a raison, Caroline, parce que s'il y a bien un fruitier, alors je comprends des fois que dans les fruitiers des communes, enfin, s'ils trouvent pas les acteurs pour s'en occuper, c'est compliqué. Parce qu'un fruitier type pommier, cerisier, couetché, il faut les tailler. Faut en occuper. Aujourd'hui, c'est très compliqué des fois d'avoir des fruits, sans une pulvérisation autorisée en agriculture biologique, bien sûr. C'est quand il y a de la casse, les branches, elles sont cassées, les charpentières aussi. C'est compliqué. Mais le petit fruit, franchement, faire une haie de groseille cassis, une haie de casseille, sans forcément aller vers de la framboise qui est un peu plus compliqué. Où là, les gens ils sautent dessus, ils cassent un peu tout parce que la framboise, tout le monde la mange, ce qui est moins grave pour les groseilles, les cassis et compagnie. Mettre une jolie haie bien palissée avec, des murs, des choses, ça me semble intéressant. Ouais. Donc, c'est une bonne idée, quoi.
On va continuir avec Hélène qui nous
pour
dit.
Pour revenir, attends, oui, j'ai pas fini. Pardon, je coupe. Par exemple, dans les entreprises, au lieu de mettre des trucs complètement nuls, là, souvent du gazon. Et même si
ça y est, il tire à boulet rouge, ça y est, balle perdue,
non,
ça
non,
y est,
non,
ça,
non,
ça y va.
Le truc, c'est que dans une entreprise, souvent on dit on veut pas trop l'implanter parce que c'est une réserve foncière entre guillemets pour faire un futur parking, une extension. Mmh. Je comprends, hein, c'est fait pour ça. Mais je veux dire, c'est pas très grave de mettre du petit fruit et à un moment de l'enlever. Pourquoi ? Parce qu'on pourra bouturer la plupart ou marcoter ou.
Et puis ça fait une salade de fruits. Ça fait une salade de fruits à la cantine, quoi.
Oui, voilà, ça peut. Les gens quand ils fument leur clope. C'est quand même sympa
de manger des fraises,
voilà.
Ou des framboises. Ouais, ça fait goût framboise, quoi. C'est ça.
Ouais, c'est ça.
Bien. Hélène, qui est une cliente, qui nous dit merci pour la réponse à ma question avec le glissement de la solution Pro qui est en vente libre en Allemagne. Alors, je ne vois pas du tout à quoi faire référence Hélène, mais j'ai deux abris à mes anges. L'un habitait tous les ans et j'ai des poules depuis juillet 2023 et nous avons des chauves-souris. Tout est possible, même en région parisienne.
Mais bien sûr.
Je vais tenter, mais je crois qu'on parlait du Carpocaps, hein, parce que je vais tenter avec le carton autour du tronc que je ne connaissais pas. J'ai planté mirabelles et prunes et poires et j'aimerais limiter l'expansion. Je pense que c'est ça. Et Hélène nous rajoute, c'est pour ça que je reviens sur le propos d'Hélène. J'ai également un ajout à faire à la réponse à Nicolas. Vous parlez toujours de bouturage. J'ai marcoté deux branches assez volumineuses de mon figuier au mois de juin, une bouteille en plastique ouverte remplie de terreau, un seau accroché au figuier avec un fil d'hydratation allant jusqu'au substrat pour le garder humide. Voilà. J'ai offert les deux fin octobre à mon fameux voisin. Il était plein de racines et ont très bien repris. Il voit déjà les premiers fruits arriver. Voilà, la bouteille en plastique, ça peut aussi faire office de boule
bien
de
sûr.
Bouturage.
Complètement.
On va terminer avec Lina du Tarn qui nous dit bonjour à vous deux, je vous écris car j'ai un olivier qui se porte pas bien, je vous envoie les photos. Feuilles font des taches brunes et jaunes, puis j'en ai un second qui se porte bien, il a plein de petites olives. Merci pour vos précieux conseils qui me donnent toujours plus envie de jardiner. Bientôt, je vous enverrai des photos de mes réalisations au jardin et ce, grâce à vous. Eric, ça manque de miam ou c'est pas adapté?
Bah, disons, ce qu'il y a, c'est que l'olivier a souvent ses petits. Alors, c'est des problèmes de maladie cryptogamique, hein, c'est un champignon pour faire simple. Il faut savoir que l'olivier, il y a une chose qu'il ne supporte pas, c'est avoir les pieds dans l'eau.
D'accord, donc trop de flotte.
Trop de flotte ou un sol qui est hyper argileux et qui retient l'eau, il n'aime pas. Alors après, si dans son jardin, l'auditrice, il y en a un qui est bien et l'autre pas bien, des fois, ça peut, par rapport à la position, est-ce que c'est un endroit où il y a plus de flotte que l'autre, ça peut être ça. Voilà. Alors, si c'est le cas, on ne peut rien faire, à part d'enlever l'olivier.
À part, changer de sol, quoi.
Le changer de sol, ça, c'est pas possible. Donc, de le mettre à un autre endroit. Sinon, si c'est, des petits passages comme ça, la seule solution, c'est faire un traitement. Moi, je proposerais, même léger, je ferais un premier travail avec une bouillie bordelaise, pas en ce moment, hein, parce que c'est pas le moment, mais de le faire. Et en ce moment, de faire, comme la problématique qu'on a eue tout à l'heure sur les maladies, c'est faire à base de prêle, de faire une décoction, qui peut être intéressant pour limiter ces attaques sur feuillage. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand il y a des attaques fongiques sur feuilles,
donc champignons,
aussi sur fruits.
Ouais, donc ça risque
sur fleurs.
Sur fleurs, ouais.
Donc, voilà. C'est souvent quand l'olivier a ce type de feuilles tous les ans, c'est qu'il est dans un trou, dans une zone où il y a de la flotte qui passe.
Et en gros, il est pas bon. Donc, on teste d'abord la problématique champignon, et sinon, c'est un vrai problème de sol. Donc,
c'est un vrai problème de sol, de disposition. Et des fois, on est dans le même jardin, mais vous savez, on est un peu, ça peut être dans une situation comme ça, c'est que
il y a une zone
à cet endroit-là, il y a peut-être un excès d'eau qui vient à cet endroit-là, qui va faire que votre, il faut que le sol soit bien drainé.
Bien, vous qui nous écoutez, chers auditrices, chers auditeurs, rendez-vous la semaine prochaine. On va parler bien sûr de vos questions et puis des réponses d'Eric. contact@monjardinbio.com pour nous écrire. On cite Christophe, Stéphane, Sandrine et Anne-Sophie. Et j'ai encore un mail à Tiffany, je vois. Rendez-vous la semaine prochaine. On ne peut pas tout traiter cette semaine. Donc n'hésitez pas aussi à nous relancer si jamais on vous répond pas. Mais en tout cas, voilà, votre message est bien enregistré. Donc on fera tout pour le traité. Allez, place à celui qui est perpétuel. C'est pas Eric. Enfin, si aussi.
Ouais, mais bon.
Mais c'est quelques légumes. Alors déjà.
Voilà, c'est ça.
Bon. Effet de mode.
C'est légumes perpétuels. En fin de compte, c'est un légume qui reste en place. Comme le tu disais tout à l'heure, on pourrait parler. Ouais.
Et que, non, pardon, je, juste avant de. J'ai juste une question, je mets les pieds dans le plat. C'est pas un truc un peu à la mode de Bobo, ça, franchement.
Oui, c'est.
Non, mais
c'est...
Je pose la question.
Non,
parce
mais
que...
ça a été mis beaucoup en avant parce que dans le principe de la permaculture, il y a une place très forte aux légumes perpétuels.
Ok.
Voilà.
Ça vient de là, à la base, c'est ça.
Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et puis, aujourd'hui, c'est un peu. On a l'impression que c'est un peu la solution.
Mais parce que tu jettes pas, tu machins.
Tu jettes pas, en fait... voilà, oui, ça okay, revient, ouais. T'as pas besoin de ressemer. Une fois que tu l'as en place, tu l'as en place, ce qui n'est pas toujours vrai, on le verra. Donc ce qui est important, c'est que ce sont des légumes qui sont faciles de culture. Voilà.
Ok. Parce
que souvent, c'est des formes très originales. Et je redis toujours, quand on revient un peu à l'original, aux variétés ancestrales, c'est quand même plus facile de les cultiver. Hein, parce que quand ça marche. Ça marche, quand ça marche pas, bah ça marche pas parce que peut-être que la condition de vie ne lui correspond pas, mais au moins quand ça marche vraiment bien, mais même très 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 bien, plus qu'on peut imaginer. Alors faut se dire aussi que c'est des légumes qui peuvent aussi rejoindre le jardin d'ornement. On pourrait le faire avec n'importe quel légume, mais en plus, ils ont quand même une caractéristique, ils sont beaux, ils sont jolis, ils sont agréables, ils sont. Voilà, et on pourrait vous regarder, donc on peut les mettre complètement dans son jardin d'ornement. Sans choquer, voilà. Alors, je sais qu'aujourd'hui, si on met des carottes, ça se fait, hein, mettre des carottes, des céleris dans son jardin d'ornement. Mais bon, voilà, c'est, tout le monde ne le fait pas. Ça ne correspond pas forcément au même type de sol, mais on peut le faire, comme on fait par exemple avec certains choux décoratifs ou des blettes décoratives, ou que personne ne mange, alors que les blettes décoratives, ce sont des blettes. Hein, elles ne sont pas blanches.
Oui, et puis elles sont vendues 4 fois le prix de. Et
voilà, exactement. Mais ça, ouais. c'est autre chose. Donc, alors, faut se dire aussi, c'est que les légumes perpétuels, ce sont pas des légumes principaux dans la consommation, mais sont de véritables accompagnateurs, hein, qui ont du goût en plus, qui sont sympas, qui peuvent surprendre et qu'on a toujours sous la main. Mais dire que, par exemple, on va faire avec le chou une potée de chou, non, voilà, ou de la choucroute, il en faut de trop grosses quantités pour pouvoir. Alors, c'est pour ça, en parlant de chou, je vais commencer par un qui est vraiment celui le plus connu, hein, qui est le chou d'Aubenton. Donc ça c'est un chou, vraiment le chou perpétuel, c'est-à-dire que c'est un chou qui va vivre entre 5 à 7 ans. Alors quand je dis, c'est pour ça que je le dis souvent, attention, un légume perpétuel n'est pas forcément un légume à vie. Hein.
D'accord.
Donc, le chou d'Aubenton est super intéressant. Alors pour qu'il soit vraiment le plus perpétuel possible, il faut savoir que dès qu'on va détacher une pousse de chou et qu'on va le bouturer à l'automne ou au printemps, elle reprend. À presque à 100%. Donc c'est pour ça qu'il est perpétuel sur 5-7 ans, mais comme le chou cal peut l'être aussi, hein, d'ailleurs, mais le chou d'Aubenton, ben, le fait de le faire ça, ben, quand vous avez un chou d'Aubenton, au bout de 3-4 ans, vous pouvez faire 30 mètres de chou d'Aubenton, parce que si vous enlevez chaque pouce et vous la bouturez, ben, ça marche.
Okay. Donc,
c'est ça qui se... En plus, ce qu'il y a, c'est que le chou d'Aubenton, c'est pour ça qu'il peut paraître perpétuel, comme d'autres plantes d'ailleurs qu'on va citer, c'est que quand il va vieillir, il va s'affaisser, un peu comme nous.
Et on peut se faire bouturer, c'est ça.
Et lui, bah, comme il va s'affaisser et il va mettre les tiges en proximité du sol, il va automatiquement se marcoter.
Ok,
donc,
oui,
ça,
donc
ça redémarre.
Ouais, d'accord, ouais.
Alors le chou d'Aubenton, lui, il aime bien d'avoir des situations mi-ombre et soleil, donc c'est quand même ça qui est intéressant pour les jardins qui sont un peu à la mi-ombre. Hein. Des fois, on dit bon, on peut rien planter, bah si. Il faut que ça soit une terre ameublie. Bon, comme tous les choux, il faut que ça soit un sol qui est riche en matière organique. Et le chou d'Aubenton, le principe qu'il y a, c'est que c'est le chou un peu qui a fait l'origine de tous nos choux.
Ok.
Donc c'est pour ça que l'ancêtre, là, elle nous passe, voilà, elle nous donne plein de choses. C'est marrant qu'on revient à l'ancêtre. Ça se mange, voilà, les feuilles tout le temps. Et surtout, faut pas être surpris que le chou d'Aubenton, quand il sent bien dans son espace, il demande beaucoup de place. Donc un chou, c'est tous les 1 mètre. Donc c'est pour ça qu'il est facile de se faire. Donc ce que je vous invite, hein, il existe des verts, il y en existe des panachés, hein, voilà. Et en fin de compte, il y en a des variations qui peuvent avoir lieu parce que c'est un chou qui se développe partout. Et ce que je vous invite à faire, c'est voilà, c'est vraiment un chou qui rentre vraiment dans l'aménagement. Si par exemple vous avez une rocaille avec un mur qui voilà avec différents niveaux, ben vous pouvez mettre. Moi je l'ai fait comme ça, hein, mon chou d'Aubenton il est comme ça, il est le long d'un petit muret. Et il retombe sur le muret comme si c'était une plante d'ornement. Voilà. Donc c'est très très bien. Il est sensible, mais sans plus, aux maladies. Hein, voilà, parce que comme c'est l'ancêtre, bah, il résiste mieux. Voilà.
D'accord.
Tout simplement.
Alors ça, c'est côté des choux. Ouais.
Voilà, s'il est en plein soleil, par contre, voilà, prévoyez toujours des choux d'Aubreton, un peu au simillon, parce que s'il fait vraiment très très chaud, il souffre. Alors vous en avez un autre qui s'appelle, comme on dit, le chou perpétuel ou chou d'Aubreton, mais vous avez bien sûr le poireau perpétuel. Alors lui, c'est un légume, je dirais, qui aime bien les sols drainants, mais assez riche en matière organique, comme beaucoup. Et puis, il va créer ce qu'on appelle des bulles bigues au pied. Et en fin de compte, quand vous avez besoin de poireaux, ben, vous coupez le poireau à ras, mais comme il y a des bulles bulbées, ça va redonner, ainsi de suite, du poireau, quoi.
Mais ce n'est pas des gros poireaux tels qu'on les connaît,
Non, ce n'est
Eric.
Pas des gros gros. Voilà, ben, il y en a quand même des gros qui font quand même le petit doigt. Enfin, c'est pour ça, choisissez une bonne variété. Et vous en avez partout. Voilà, ça
D'accord.
peut, à partir d'un pied, vous pouvez avoir après 1 ou 2 mètres carrés. Hein. Et donc, c'est pratique parce que ça permet d'accompagner des situations en été ou en automne, en hiver. Mais voilà, on ne peut pas dire que vous allez faire une salle de poireaux. Quoi.
Oui, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on ouais. est plutôt sur l'accompagnement ouais. parce qu'au final, ça produit… Alors, je ne voulais pas du tout critiquer ouais. La notion, mais ça, c'est des choses qui se cultivent facilement au potager. En jardin d'ornement, tu le disais il y a un instant, mais aussi peut-être sur des balcons, ceux qui nous écoutent qui sont en milieu urbain.
Ouais, ouais,
est-ce que bon, c'est rentable, entre guillemets ?
Non, bah, il faut vraiment, il faudrait vraiment avoir une grande surface parce qu'il va être sensible à la sécheresse. Hein.
D'accord, oui, donc ouais, c'est pas forcément indiqué dans un pot ouais, sur une terrasse.
Le chou d'Aubreton, ça peut faire une décoration.
D'accord.
Tout à l'heure, on parlait d'autre chose que les géraniums. Si vous avez mis vous pouvez mettre un chou d'Aubreton dans une jardinière, ça fait une jolie déco.
Ok.
Voilà. Donc, bien sûr, de temps en temps, ben, les poireaux, les premiers poireaux que j'appelle les plants mères, faut les enlever de manière à laisser les plants filles se développer au fur et à mesure. Donc voilà, ça c'est un poireau perpétuel est vraiment très pratique. Vous avez l'ail et l'oignon rocambole. Alors rocambole, ça veut dire
rocambolesque.
Ça fait fleurir au-dessus. C'est-à-dire vous avez à un moment une énorme tige qui aura des bulbilles au niveau aérien. C'est-à-dire que la fleur, en réalité, c'est un paquet de bulbilles qui va donner naissance dans ces petits bulbilles que vous pouvez soit à la fois consommer pour l'oignon rocambole. Où vous pouvez, je dirais, le replanter. D'ailleurs, le principe, c'est que comme la tige est assez souple, assez fine, le poids des bulbilles qui vont grossir au-dessus vont tomber et automatiquement, ça va se ressemer automatiquement à une zone de bulbilles à proximité. Donc là, bien sûr, il faut des fois renouveler quand même les vieux plants, il faut les renouveler tous les 5 ans, d'où l'intérêt de garder des bulbilles, pas simplement pour les manger, mais pour les ressemer. Voilà. Une situation ensoleillée est privilégiée. Et vous avez la même chose pour l'ail, ce qu'on appelle l'ail rocambole. Alors là, on peut manger les bulbilles, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que l'ail va produire des feuilles qui ont un goût d'ail. Et donc, qui est beaucoup plus, je dirais, gérable au niveau de l'estomac pour tout le monde.
Ouais.
Donc en fin de compte, c'est un peu comme une plante qu'on appelle aussi, qui est aussi une plante perpétuelle, qu'on appelle ciboulail. D'abord, ciboulette, ciboule. Tout ça, ce sont des plantes perpétuelles aussi, hein, parce que
et aïe, ouais.
Voilà. Et donc ça, on peut l'utiliser. Donc ça, c'est super intéressant. Et enfin, je finirai parce que on peut aussi parler de la rhubarbe. On peut parler aussi de l'oseille. Tout ça, ça fait partie de ces perpétuels.
Mais l'oseille, c'est pas toujours perpétuel, Eric. Hein.
Oui. Non, ça, c'est des fois, surtout en fin de mois.
Surtout en fin de mois.
Ouais. Des fois, ouais. Et puis voilà. Et donc tout ça, c'est aussi ce qu'on appelle des plantes perpétuelles. Et on sait très bien que voilà, ça fait des compléments qui sont super intéressants. Une soupe à l'oseille, c'est super bien. La rhubarbe, bah, aussi, c'est momentané aussi. C'est important. Et puis vous en avez 2-3 autres que je voudrais, qui sont un peu plus anecdotiques, mais sont super intéressantes. Alors vous en avez un qui s'appelle l'haricot d'Espagne, orteil du prêcheur. Alors c'est un haricot qui va émettre, des racines tubéreuses. Dès qu'il y a tubéreuse, ça veut dire qu'il va y avoir repousse l'année suivante.
Okay.
Donc c'est un haricot qui est grimpant, c'est un haricot d'Espagne. Donc l'hiver, il faut vraiment le protéger par un paillage épais. Mais par contre, son seul truc, c'est qu'il pousse assez rapidement s'il fait beau. Et le problème, c'est que quand vous voyez ce temps qu'on a aujourd'hui, les jeunes pousses sont sensibles au froid. Donc voilà, il faut penser qu'il faut toujours en garder un peu quelques graines. Qu'on a gardé pour le mettre. Vous en avez une autre qui est superbe. Alors là, c'est le top du top. C'est la capucine, mais tubéreuse, pareil. Hein, donc c'est une capucine qui va être vivace, qui fait plus de 2 mètres de long. Elle se plante souvent en avril en ce moment, qui coûte un peu cher quand on l'achète. On la peut le mettre dans un, même à la mi-ombre. Elle est sensible un peu aux températures un peu fraîches. C'est pour ça qu'il faut en sortir du sol et en garder pour, en ressemer les, pour les remettre les prochaines, comme vous allez le faire avec les pommes de terre. Voilà, donc hein, il faut quand même mettre un pH épais l'hiver. Et les jeunes pousses sont aussi sensibles au froid. Mais ça donne des choses super intéressantes. On peut manger les feuilles, les fleurs et les tubercules. Et puis vous avez, bien sûr, c'est toujours ceux-là qui sont les meilleurs. C'est l'Amérique du Sud ou Centrale, avec l'Oca du Pérou. Voilà, et c'est une plantation qu'on met en ce moment, voilà, en avril, mai.
Donc, en résumé, attention quand même au prix, si je puis dire.
Parce oui, que... voilà, il ne faut pas non plus exagérer au niveau des prix. Par contre, c'est une plante qu'on trouve facilement dans les, je dirais, les bourses d'échange de plantes, les trocs plantes et compagnie.
Ouais. Voilà.
Parce qu'une fois qu'on en a, et je vous l'ai dit au début, quand on en a et ça pousse bien chez soi, on en a plein partout.
Ouais, donc on n'a plus besoin au final non. de... Ouais, voilà, on est d'accord.
Voilà. Et je vous rappelle, c'est pas une plante de repas. C'est un peu comme pareil, hein, quand vous avez, je dirais, des liantis, bah, si vous faites qu'un repas de ça, ça va pas. C'est souvent des compléments. Ou les carottes, ou le persil tubéreux. Pareil, le persil tubéreux, bah, c'est, on va pas faire une purée de persil tubéreux. Ouais. On va ajouter un persil tubéreux. Je dirais avec sa salade, avec ses carottes et compagnie. Donc c'est souvent un complément. Mais ça vaut le coup de le mettre, mais il ne faut pas que se focaliser là-dessus, quoi.
Bien. Mon cher Eric, est-ce qu'on a fait le tour de...
Oui, des alors sur les perpétuels, pas forcément, parce qu'il y en a plein d'autres encore, mais ça nous permet aux auditeurs, aux auditrices d'avoir une petite... voilà. Et aussi, je préciserai là-dessus, si vous offrez un perpétuel quand vous allez être invité... pour le barbecue que vous allez faire, je sais pas quand, parce que maintenant on se les caille, mais voilà. Des fois, c'est mieux d'acheter, même si c'est un peu plus cher, un pot de poireaux perpétuels que des fleurs qui viennent du Tchad. J'ai rien contre les Tchadiens, hein,
ou du Kenya.
Quand vous les offrez, mettez des gants parce qu'il y a tellement de pesticides dessus que lavez-vous les mains après. Donc voilà, des fois, ça fait plus plaisir de faire ça et vous proposer, je dirais, à la personne qui invite, ben, je dirais, d'avoir une bonne santé plutôt que d'acheter des plantes. Ou si vous achetez des fleurs et des plantes, pensez peut-être à la production française.
Fleurs de France, le label effectivement, ouais. qui existe, pardon, et qui permet aussi bien chez des fleuristes en fleurs coupées que des fleurs à replanter, parce qu'on va le rappeler, ouais. Le jardin, on voit tout et son contraire. Et on sait qu'il y a beaucoup d'approvisionnements qui viennent aussi de Hollande. Encore une fois, on n'a rien contre la Hollande, mais c'est juste une question de cohérence. On peut pas dire, on peut pas se vanter d'être une jardinerie proche de la nature, etc. Et puis bon, bah importer des choses en dehors. On a une filière qui est là, Fleurs de France en fait partie. Il y a plein d'autres producteurs qui font bien leur boulot, et c'est peut-être ça aussi. Alors sans parler de réindustrialisation et de quoi, de réarmement industriel, mais c'est pas mal aussi de faire un peu d'agricole aussi, les fleurs chez nous. Voilà.
Ouais. Alors c'est sûr. Et c'est puis pas aussi le même prix. Pour avoir de la fleur, pensez aussi à la notion de reprenez des bouquins sur ce qu'on appelle les jardins de curés et compagnie. Faut pas oublier que la floraison du jardin de curé était là pour aussi fleurir, je dirais, l'église du 1er janvier au 31 décembre.
Voilà.
Donc ils vous proposent des listes, hein, on fait pas de religion là. Le principe, c'était simplement à travers ces espèces et ces variétés, en ce moment, on va fleurir plutôt l'autel avec du lilas, on va fleurir avec de la glycine, on va fleurir, voilà. Donc essayez de prendre ces fameuses listes qu'on peut trouver dans ce qu'on appelle les jardins de curés, et ça vous permettra d'avoir une floraison et de types de plantes qui seront là qui vont accompagner votre fleurissement toute l'année.
Allez, un bouquin On s'aime fort et un bouquin autour des jardins de curés, ouais, c'est la prochaine chose à acheter chez votre libraire préféré. Ouais. Eric, on arrive à la fin de cette émission.
Ouais.
Auparavant, le faux dicton du jour, oui, qui est très drôle.
C'est autour de version du perpétuel. Hein. Quand le jardinier prend perpète au jardin, sa cabane est faite de tôle.
c'est trop, j'aime bien. Moi, je suis bon public, moi. Merci en tout cas, Eric, pour tes nombreux conseils. On se donne rendez-vous, bien sûr, vendredi prochain. Auparavant, rendez-vous sur Instagram, sur Facebook, sur la newsletter chaque semaine. Et puis, tiens, Qu'est-ce qu'on a aussi à vous rajouter? Rendez-vous sur le blog avec plein de conseils. Vous tapez dans le moteur de recherche au-dessus là sur notre site, et puis quand vous tapez les mots-clés que vous cherchez, vous avez des dizaines d'articles qui s'y réfèrent. On l'approvisionne, on l'abreuve de conseils d'Eric toutes les semaines. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine. Merci infiniment de votre fidélité. Le bouquin à la librairie, on l'a dit aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est tout.
Le
mot de la fin, Eric.
Le mot de la fin, bah, on a le temps. On a le temps.
Mais on a re-le temps.
On a re-le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, on y va à fond. Maintenant, on a re-le temps.
Prudence à vous. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Salut.
Salut.